Romancerie 22. Le livre de l'héritage. Brian Kozurek. Romains 4. 1. Que dirons-nous donc qu'Abraham, notre père, a obtenu selon la chair? 2. Si Abraham a été justifié par les œuvres, il a sujet de se glorifier, mais non devant Dieu. 3. Car que dit l'Écriture? Abraham crut à Dieu, et cela lui fut imputé à justice. 4. Or, à celui qui fait une œuvre, le salaire est imputé, non comme une grâce, mais comme une chose due. 5. Et à celui qui n'est mis fait point d'œuvre, mais qui croit en celui qui justifie l'impie, sa foi lui est imputée à justice. 6. De même David exprime le bonheur de l'homme à qui Dieu impute la justice sans les œuvres, c'est heureux ceux dont les iniquités sont pardonnées, et dont les péchés sont couverts. 8. Heureux l'homme à qui le Seigneur n'impute pas son péché. Ce mot « imputé » est un mot grec. Logizomai qui vient de la racine du mot logo et qui combiné avec le suffixe « mai » signifie « imputé » ou « compté » ou « considéré » comme nous voyons au verset 3. 3. Car que dit l'Écriture? Abraham crut à Dieu, et cela lui fut imputé à justice. Encore au verset 4, Paul utilise le même mot comme « imputé », or, à celui qui fait une œuvre, le salaire est imputé, non comme une grâce, mais comme une chose due. En d'autres termes, prendre en compte, ou mettre dans le compte de quelqu'un. Par conséquent, ce mot logizomai a un rapport avec le fait d'étenir un compte. Et dans ce cas, nous parlons d'ouvrir un compte, votre compte sur la page du grand livre de Dieu, et votre livre Néhémie montre aucune dette impayée, mais tout est comptabilisé, le prix a été payé. Il a payé une dette qu'il n'est pas due. J'ai dû une dette que Néhémie pouvait pas payer. Christ Jésus a payé la dette que Néhémie pouvait jamais payer. Et comment ceci s'est-il passé? Par grâce et non par ce que vous avez fait. Car, Paul dit, or, à celui qui fait une œuvre, le salaire est imputé, non comme une grâce, mais comme une chose due. Maintenant, gardez cette pensée dans votre esprit pendant quelques instants et nous y reviendrons. Romains 4, 9. Ce bonheur n'est stérile que pour les circoncis, ou est stérile également pour les incirconcis? Car nous disons que la foi fut imputée à justice à Abraham. Maintenant, souvenez-vous, la circoncision c'est retrancher la chair en surplus. Par conséquent, il dit que ce bonheur Néhémie vient qu'à ceux qui se sont déjà séparés du monde et des choses du monde, ou bien, Esther ce qu'il dit que ce bonheur vient avant même qu'ils aient pu s'en séparer. Maintenant, voici les déclarations. Voici la pensée que Paul présente pour nous. Car, nous disons que la foi fut imputée à justice à Abraham. Nous savons que la foi a été comptabilisée, elle a été imputée, elle a été considérée et a été placée sur le grand compte d'Abraham dans le livre de Dieu. En revanche, Paul nous dit ceci, mais n'arrête pas là. Il va ensuite poser la question. Dis comment donc lui fut-elle imputée? Était-ce après? Ou avant sa circoncision? Il n'était pas encore circoncis, il était incirconcis. En d'autres termes, quand est-ce? À quel moment fut-il écrit sur la grande page du grand livre de Dieu qu'Abraham a été considéré comme étant juste? À quel moment dans la vie d'Abraham la foi lui fut-elle finalement accordée? La foi, qui est-elle une révélation? Et Paul répond à cette question, ici. Il n'était pas encore circoncis, il était incirconcis. En d'autres termes, le son compte a été crédité bien avant même qu'il soit circoncis, bien avant même qu'il ait fait un acte dans sa chair, qui montrait qu'il a reconnu l'alliance de Dieu avec lui. Maintenant, pourquoi est-ce que Paul traite de l'acte de la circoncision ici? Parce que la circoncision est un acte dans la chair, qui visiblement et extérieurement montre une rupture de la chair en un surplus, ou une rupture en soi-même du monde et des soucis du monde. Et Paul nous dit par ceci que bien avant même qu'Abraham ait fait une chose dans sa chair comme un acte ou comme une œuvre dans sa chair, son compte fut déjà crédité. 11 Et il reçut le signe de la circoncision, comme sceau de la justice qu'il avait obtenue par la foi quand il était incirconcis, afin d'être le père de tous les incirconcis qui croient, pour que la justice leur fût aussi imputée. Maintenant, ce que Paul nous enseigne ici, c'est que le compte d'Abraham fut crédité. Il fut crédité par Dieu, et ce crédit était une chose appelée la justice, laquelle nous savons être un état correct de la sagesse, ou un état de la pensée et du cœur. Et cet état correct de la sagesse lui fut donné avant qu'il ait fait une chose en réponse à la promesse de Dieu. Par conséquent, quand Abraham a répondu à Dieu, sa circoncision fut en réponse à cette révélation correcte qu'il a reçue par la grâce de Dieu. Par conséquent, en montrant que l'acte en soi-même n'était pas la justice, mais ce fut simplement sa réaction à une révélation correcte. Maintenant, souvenez-vous qu'il y a quelques semaines, nous vous avons montré la différence entre les œuvres et l'obéissance de la foi. En se rendant compte de la différence entre les deux, tout aboutit au motif ou le mobile. Si je connais votre motif pour une action, alors je peux dire si votre action était simplement une réponse à une révélation qui est appelée l'obéissance ou c'est une simple œuvre. Maintenant, l'œuvre a un motif possible, et c'est l'avidité qui est le gain. Mais ce désir pour le gain peut être exprimé en deux faces opposées. Numéro 1, par la peur du châtiment, qui est simplement une peur de perdre et l'autre, c'est de la dette. Je dis la dette, parce que c'est le mot que Paul utilise au verset 4, or, à celui qui fait une œuvre, le salaire est imputé, non comme une grâce, mais comme une chose due. En utilisant le mot « dette », Paul voulait savoir qu'un motif pour le gain est utilisé ici. Si je fais ceci, alors Dieu a une dette envers moi. Dieu me doit quelque chose. Ou si je n'ai fait pas ceci, alors je serai rejeté. Ce qui est une peur de perdre. Par conséquent, le motif est séparé de la révélation comme quelque chose de tout à fait différent. Alors que l'obéissance est attachée à la révélation par une chose, et c'est croire en cette révélation. Et croire montre le respect et la confiance. Je crois et par conséquent je fais. J'ai confiance que ceci est la bonne chose que je suis en train de faire. Je respecte tellement Dieu que je sais qu'il ne me demanderait pas de faire quoi que ce soit qui marcherait mal acquis. Il a dit, tout concourt pour le bien de ceux qui l'aiment et qui sont appelés selon son dessein. Par conséquent, il est facile pour moi d'abandonner simplement toutes les pensées que j'aurais, qu'Inémi puisse pas voir les bonnes pensées de Dieu envers moi et simplement de soumettre ma volonté à sa volonté, comme Jésus a appris à le faire. Par conséquent, le but de Dieu de se révéler à nous est à nous aider à parvenir à un endroit où nous pouvons être capables de soumettre librement notre volonté à la sienne. Ensuite, le plan de Dieu peut se poursuivre dans notre vie sans entrave de notre propre pensée. Jésus a dit, je veux que tu enlèves cette coupe de moi. Ce sont mes pensées à ce sujet en ce moment même. Parce que je ne m'y tiens pas à la pensée de souffrir de cette manière, qui est vraiment très douloureuse. Cependant, je sais que tu t'intéresses plus à ma pensée. Et je sais que tout concourt pour mon propre bien. Aussi bien que tout ce que tu aimes. Par conséquent, Père, non pas ma volonté, mais que la tienne soit faite. En d'autres termes, Père, je sais que tu t'intéresses plus à ma pensée, et en ce moment, je peux à peine penser correctement. Par conséquent, Je soumets ma volonté à la tienne pour ta gloire et la mienne. Maintenant, Jésus pensait-il de lui-même seulement? Ou ses motifs avaient été faux? Et souvenez-vous que le faux motif était un gain? Que puis-je gagner de cet acte dans ma chair? Alors il n'aurait pas soumis sa volonté à celle de Dieu, et le résultat aurait été différent. Mais l'aimait tellement, respecta et fit confiance au Père pour le ressusciter, qu'il était allé en avant et a soumis sa propre volonté à une volonté supérieure, et cela était rappelé l'obéissance de la foi. Maintenant, nous avons établi deux points ici, que Paul s'adresse à nous dans ce chapitre. Numéro 1, cette pensée du grand livre de Dieu et dans lequel nous avons soit le péché, ce qui impute l'incrédulité, soit nous n'en avons pas. Par conséquent, ce que nous voyons dans ce point numéro 1, c'est ceci. Quel est l'état de notre compte devant Dieu? Un dossier plein d'incrédulité ou un bon dossier sans transgression? Et le point numéro 2, est celui-ci. Notre dossier montre notre motif. Et si notre motif qui est exprimé par un désir du gain, si d'une peur de la perdre ou une avidité pour ce qui n'est pas le vôtre pour commencer, ou bien ce dossier montre simplement une pensée qui s'est soumise au-dessus d'une pensée supérieure. Une volonté qui a reconnu réellement la grandeur de Dieu, qui est fidèle et par conséquent, une reconnaissance de sa capacité totale de tout faire concourir pour son bien et pour le vôtre. Maintenant, voici là où nous venons. Maintenant, j'aimerais évoquer une autre pensée ici que Paul exprime à travers tout ceci. Et c'est le verset 9 où il a dit, 4. Or, à celui qui fait une œuvre, le salaire est imputé, non comme une grâce, mais comme une chose due. 5. Et à celui qui n'est mis, fait point d'œuvre, mais qui croit en celui qui justifie l'impie, sa foi lui est imputée à justice. 6. De même David exprime le bonheur de l'homme à qui Dieu impute la justice sans les œuvres, c'est heureux ceux dont les iniquités sont pardonnées, et dont les péchés sont couverts. 8. Heureux l'homme à qui le Seigneur n'impute pas son péché. Remarquez ici, que Paul appelle cette imputation de la justice, une bénédiction de Dieu. Il dit, 6. De même David exprime le bonheur de l'homme à qui Dieu impute la justice sans les œuvres, c'est heureux ceux dont les iniquités sont pardonnées, et dont les péchés sont couverts. 8. Heureux l'homme à qui le Seigneur n'impute pas son péché. Maintenant, nous savons que dans Deutéronome, nous avons le livre de deux lois qui sont les bénédictions et les malédictions. Et nous savons que les deux, bénédiction et malédiction, viennent de la même parole. Mais notre motif envers cette parole est ce qui détermine si nous recevons la bénédiction de cette parole ou la malédiction. Maintenant, gardez ceci à l'esprit alors que nous étudions davantage pourquoi Paul a évoqué cette pensée en traitant la question de la foi. Maintenant, revenons encore au verset 11 et reprenons les pensées de Paul alors qu'il les expose pour nous, concernant l'imputation de la justice comme étant la bénédiction. 4. 11 Et il reçut le signe de la circoncision, comme sceau de la justice qu'il avait obtenu par la foi, la révélation, quand il était incirconcis, avant qu'il ait fait tout acte, qui a montré une réponse extérieure à Dieu. Par conséquent, le signe de la circoncision était la réponse d'Abraham à la promesse de Dieu, afin d'être le père de tous les incirconcis qui croient, pour que la justice leur fût aussi imputée. 12 Et le père des circoncis, qui n'est mis sont pas seulement circoncis, mais encore qui marche sur les traces de la foi de notre père Abraham quand il était incirconcis. 13 En effet, ce n'est pas par la loi que l'héritage du monde a été promis à Abraham ou à sa postérité, c'est par la justice de la foi. Or, si vous saisissez ce que Paul vient de conclure, cela doit avoir un rapport avec l'héritage. Paul nous dit que tout ce compte, tout ce dossier continue d'avoir une part de l'héritage d'Abraham. Dans toute situation normale où vous avez une propriété qui vous est à laisser, Les dettes doivent être liquidées de la propriété avant que le reste de la propriété n'émise soit partagé. Et s'il y a des dettes dans les livres, alors la richesse de l'héritage devra d'abord soustraire cette dette avant que n'importe quel héritage n'émise soit distribué. Et ce qui reste, c'est-à-dire ce que vous gagnez. Et Paul continue. 14. Car, si les héritiers le sont par la loi, la foi est-elle vaine, et la promesse est-elle anéantie. Et pourquoi ceci? À cause de la question de la dette. Et Paul dit, 15. Parce que la loi produit la colère, et que là où il n'y a point de loi il n'y a point non plus de transgression. 16. C'est-à-dire pourquoi les héritiers le sont par la foi? Pour que ce soit par grâce. Pourquoi? Pour se rassurer du résultat ou du but, afin que la promesse, quelle promesse? Il parle de l'héritage, soit assurée à toute la postérité, non seulement à celle qui est sous la loi, mais aussi à celle qui a la foi d'Abraham, notre père à tous, selon qu'il est écrit, 17 je t'ai établi père d'un grand nombre de nations. Il est notre père devant celui auquel il a cru, Dieu, qui donne la vie aux morts, et qui appelle les choses qui n'émis sont point comme si elles étaient. 18 espérant contre toute espérance, il crut, en sorte qu'il devint père d'un grand nombre de nations, selon ce qui lui avait été dit, telle sera ta postérité. 19 Et, sans faiblir dans la foi, il n'émit considéra point que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans, et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants, 20 il n'émit doutait point, par incrédulité, au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu, 21 et ayant la pleine conviction que ce qu'il promet il peut aussi l'accomplir. 22 c'est-à-dire pourquoi cela lui fut imputé à justice. 23 mais ce n'est-à-dire pas à cause de lui seul qu'il est-à-dire écrit que cela lui fut imputé. 24 c'est-à-dire encore à cause de nous. À qui cela sera imputé? À nous qui croyons à celui qui a ressuscité des morts Jésus notre Seigneur. 25 lequel a été livré pour nos offenses, et est-à-dire ressuscité pour notre justification. Maintenant, bien que nous continuions à entendre cette parole de la promesse être utilisée, c'est-à-dire une promesse qui n'émit sera pas uniquement donnée à Abraham, mais aussi à toute sa semence, après lui. Maintenant, si la promesse n'a rien à voir avec la semence, alors il n'émit dirait pas à sa semence après lui. Par conséquent, nous voyons ce qu'est-ce cette promesse et Paul nous dit ici que c'est l'héritage qui est considéré dans cette promesse de Dieu. 13 En effet, ce n'est pas par la loi que l'héritage du monde a été promis à Abraham ou à sa postérité, c'est par la justice de la foi. 14 Car, si les héritiers le sont par la loi, la foi est vaine, et la promesse est anéantie. Ainsi, à ce sujet, nous voyons alors les trois premiers points comme ils ont un rapport avec le fait de recevoir l'héritage qui est la promesse. Numéro 1 Dieu assure ses livres, notre compte. Un dossier plein de notre dette ou non. Numéro 2 Ce dossier montre notre motif, et c'est à notre motif qui est exprimé par le désir du gain, ou simplement une volonté soumise. Laquelle est-elle un motif pur? Numéro 3 Cette volonté soumise est-elle ce qui recevra la bénédiction de l'héritage? Parce que la bénédiction a un rapport avec l'ajout, alors que la malédiction en a avec le retrait. Maintenant, voici ce que Dieu regarde dans son grand livre de vie. Ce n'est mis son pas uniquement nos noms dans ce livre, mais là aussi le dossier de notre dette. Et Dieu évaluera notre héritage basé sur ce que dit le livre. Au commencement était Dieu. Sept noms rédempteurs composés de Jéhovah, Elohim plus et le huitième n'est pas généralement utilisé. 1. Jéhovah moins Jiré égale le Seigneur se pourvoit à lui-même un sacrifice. 2. Jéhovah moins Shama égale le Seigneur Esther présent 3. Jéhovah moins Rapha égale le Seigneur le guérisseur 4. Jéhovah, Nissi, égale le Seigneur notre bannière, refuge et protecteur 5. Jéhovah égale le Seigneur Esther mon berger. 6. Jéhovah moins Shalom égale le Seigneur Esther notre paix. 7. Jéhovah moins Tzidkenu égale le Seigneur Esther notre justice 8. Jéhovah moins Kadash égale le Seigneur qui sanctifie. Dieu. Elohim. Celui qui s'auto, existe, / l'héritage, / le Fils de Dieu moins premier-né égale 50% de création, les fils de Dieu à travers Adam pour recevoir l'héritage perdu, dans le jardin égale plus grand que Lucifer. 50% d'héritage doivent être partagés entre eux. Maintenant, Jésus-Néhémie pouvait jamais perdre sa portion du droit de naissance, son héritage, car il Néhémie pouvait pas pécher, parce qu'il n'y avait aucune place en lui pour l'incrédulité. Souvenez-vous, Satan a modelé Ève. Maintenant, il Néhémie l'a pas créée. Mais après qu'elle a été formée du côté d'Adam, le diable l'a trouvée et l'a façonnée. Façonner ou concevoir n'est-ce pas un acte de création, mais simplement un changement du vêtement extérieur et faire paraître nouveau. C'est-ce ce que Satan a fait à Ève. Et quelle était la première chose? Elle a remarqué que sa robe était démodée. Et elle a fait un habit avec la feuille de figuier. Satan leur a volé ce qui leur appartenait par héritage. Or, Jésus est venu racheter ce qui avait été volé dans le jardin. Satan sachant cela, s'est proposé de le lui vendre au prix de l'adoration. Satan voulait être Dieu. Il voulait être au-dessus de tous les autres fils. Ésaïe 14h12 te voilà tombé du ciel. Astre brillant. Fils de l'aurore. Tu es Aïa abattu à terre. Toi. Le vainqueur des nations. 13 Tu dis en ton cœur, je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu, je m'assiérai sur la montagne de l'Assemblée, à l'extrémité du septentrion. 14 Je monterai sur le sommet des nues, je serai semblable au Très-Haut. 25 La séparation d'avec l'incrédulité au ciel, qu'est-ce ce qui a rendu Lucifer jaloux? Il est parti au nord et bâtit un royaume plus meilleur. Il voulait avoir un plus grand royaume, plus clair, meilleur, plus joli. 376-75 QR maintenant, alors que je suis arrivé à me baser sur ceci, que Lucifer au ciel a essayé de s'exalter et même être un peu plus haut que son patron. Et il a trahi Michael. Et Esther fait un grand royaume au nord, et Esther descendue. E18 Le sceau de l'Antichrist, l'homme de la main droite du Dieu Tout-Puissant était Lucifer, le fils de l'aurore. Le premier, Dieu a fait de lui presque son colossien ouvrier. Il est un colossien ouvrier, en partie égal avec lui. Seulement Satan et Némi pouvait pas créer. Dieu Esther l'unique créateur. Mais Satan a pris quelque chose que Dieu a créé et l'a perverti en quelque autre chose autre. Quelque chose de mauvais. Job le serviteur Dieu 12:23.02-55 Dieu, en mettant Satan presque colossien égal avec lui. Satan a pris les choses de Dieu et les a perverties en de mauvaises pensées. Et à travers là, il a commencé à pervertir des bonnes choses en de mauvaises choses. 17-4 Sagesse contre foi voyez. Genèse 3:4-5 Il lui, Ève, donne une raison. Néhémie veux-tu pas être l'égal de Dieu? Tenez. En d'autres termes, veux-tu être juste avec Dieu? Prends mon conseil. Écoute-moi. Dieu Néhémie veut pas dire cela. C'est Grâce Fellowship Tabernacle. Mai 2009. Veuillez adresser toute correspondance ainsi que vos questions et commentaires au sujet de ce site internet en anglais à briancocourec@yahoo.com ou en français à bitxiset@yahoo.fr.